Bienvenue à tous, bonsoir à tous, merci de votre fidélité, merci de braver la nuit.
Le froid.
Le froid nous mord et la nuit est sans fin. On chantait ça dans un chant de l'Avent quand j'étais enfant et je suis déjà un peu nostalgique. Et j'essaie de faire en sorte que ce chant soit acclimaté dans le répertoire de Saint-Eustache, mais ça n'a pas marché cette année. C'était un très beau chant qui disait « Mon Dieu, que votre règne arrive. Seigneur, venez, la terre est prête pour vous accueillir. Seigneur, venez, sur nos sillons, le blé peut mûrir. Que toute chair voit le salut de Dieu. Le froid nous mord et la nuit est sans fin. » Alors voilà, cette nuit est propice à l'intériorisation, à l'intimité aussi avec la parole de Dieu. C'est une nuit qui nous rapproche des nuits du solstice, et dans l'hémisphère nord, nous avons la chance de vivre ce symbolisme de la venue de la lumière au cœur des ténèbres. Noël est une épiphanie. Cette année, l'Église latine fêtera l'épiphanie le 6 janvier. Vous allez dire comme chaque année, eh bien non, puisque depuis la réforme du calendrier liturgique, l'épiphanie tombe le deuxième dimanche après Noël. Mais dans la tradition et dans la conscience populaire, souvent le 6 janvier est resté attaché à l'épiphanie. Alors cette année, le 6 janvier tombe un dimanche, et le 6 janvier, c'est Noël pour nos frères orthodoxes, pour les orientaux. Donc, occasion peut-être de redécouvrir à quel point l'épiphanie n'est pas simplement un développement un peu folklorique qui serait lié au roi mage, à la galette des rois, etc. Un développement qui prolongerait un petit peu la fête de Noël, mais c'est bien l'aboutissement de la fête de Noël, du mystère de l'incarnation, et donc de cette manifestation au monde, de cette manifestation aux nations. C'est bien le sens de l'épiphanie, et c'est pourquoi nous avons voulu mettre notre séance de Noël sous le signe de l'épiphanie, avec le récit des mages, et, alors, je viens de le découvrir, aussi le récit des noces de Cana. Et quand j'avais préparé avec Marc Pernaud le calendrier, la programmation de cette année de la foi dans tous ses états, je me souviens que c'est moi qui avais eu d'ailleurs cette idée des noces de Cana, puisque on considère que le déploiement de la manifestation de l'épiphanie, telle que l'Église occidentale ou orientale le vit et le propose à la méditation de ses fidèles, va de Bethléem jusqu'à l'épisode du baptême de Jésus. C'est pour ça que d'ailleurs le temps de Noël dans l'Église catholique se termine avec le baptême de Jésus. Donc il y a Bethléem, l'adoration des mages, le baptême de Jésus. Et l'Église d'Orient va un peu plus loin, va jusqu'aux noces de Cana, qui est le premier signe de l'évangile de Jean et qui est le signe de la manifestation du vrai époux, puisque dans le récit des noces de Cana, j'espère qu'on aura l'occasion quand même d'en parler, même si vous n'avez pas le texte, le vrai époux, bien sûr, celui qui vient épouser l'humanité, c'est Jésus lui-même. Alors, nous avons, je pense, sous les yeux le texte fameux de saint Matthieu, l'adoration des mages. Si vous ne connaissez pas le tableau de l'école de Rubens qui se trouve dans l'église Saint-Eustache, dans la chapelle des fonts baptismaux, très belle adoration des mages baroque, vous êtes invité à aller la voir pendant ces fêtes de Noël. Et voilà, je crois que c'est un récit qui n'est pas anecdotique, qui est un récit assez central. C'est un récit de mise en route, c'est un récit où on voit comment la foi se révèle au goyim, se révèle aux nations païennes. L'an dernier, je ne sais pas si vous vous en souvenez, la séance de Noël, c'était sur la généalogie de Jésus chez Luc et Matthieu, puisqu'on travaillait, vous vous en souvenez, sur la filiation, sur la paternité, sur la maternité. Et nous avions lu la généalogie de Jésus chez Matthieu, le Sefer Toledot, pour reprendre l'expression hébraïque, c'est-à-dire le livre des générations. Et on s'était aperçu qu'il y avait des petites anomalies étranges, puisque toutes les femmes, les rares femmes qui apparaissaient dans cette généalogie exclusivement masculine, jusqu'à Marie exclusivement, étaient des étrangères ou des, ce qu'on appelle des prosélytes, c'est-à-dire des craignants Dieu, des femmes qui n'appartenaient pas qui n'appartenait pas au peuple d'Israël, au peuple de la promesse. Et cette apparition de femmes étrangères dans cette généalogie faisait peut-être déjà signe sur ce mystère de l'adoration des mages qui viennent converger vers la crèche. Alors, juste pour introduire le propos, avant qu'on lise le texte et que je cède la parole à Marc, je souhaiterais dire que les lecteurs modernes, face à un tel texte, évidemment, ne cessent de se poser des questions. Et je pense que c'est le cas de chacun d'entre nous. Comment faire le distinguo entre ce qui est historique, entre ce qui est vrai, comme on dit, enfin, si l'historicité recouvre bien des événements, et ce qui est plus légendaire, ce qui relève de la tradition littéraire, du midrash. Vous connaissez ce mot qu'on utilise assez souvent ici maintenant, c'est-à-dire une réécriture selon les codes de la littérature de l'époque. Donc ce qui est historique, ce qui est légendaire, et puis ce qui est de l'ordre tout simplement de la théologie, c'est-à-dire la manière dont le rédacteur de l'évangile de Matthieu, appelons-le Matthieu si vous voulez, la manière dont Matthieu veut d'emblée dans son récit colorer et révéler quelque chose de l'identité de ce Jésus qui va occuper tout son récit et dont la royauté culminera sur la croix. Et c'est pour ça que cette quête du roi des Juifs, évidemment, va un petit peu occuper notre interprétation. Alors sachez que le pape Benoît XVI vient de sortir un livre, je le dis pour couper court à toute interrogation ou peut-être toute polémique d'ailleurs, parce que ça a suscité un peu de débat. Il l'a signé à la fois de son nom de pape, donc de patriarche de Rome, patriarche d'Occident, et aussi de théologien, Joseph Ratzinger. Et le pape défend une position qui est une position médiane, qui est très spirituelle d'ailleurs, où il montre qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, et que certes, tous ces textes sont justiciables et passibles d'une lecture théologique et spirituelle, mais ça n'est pas pour autant qu'il n'y a pas un noyau dur historique, qu'il ne s'est pas passé quelque chose, qu'il n'y a pas eu une conjonction astrale ou une visite effectivement d'astrologues babyloniens, chaldéens à Bethléem. Voilà. Donc je pense que notre lecture sera plus spirituelle, plus théologique, mais effectivement, on ne peut pas évacuer le dossier historique et il est impossible de le traiter comme ça, à la légère, sans nous fonder sur tout un travail qui est fait par les exégètes. Voilà, alors on peut peut-être lire le texte, à moins que tu
Oui,
veuilles
alors,
dire quelque chose.
oui, donc,
Et bienvenue à
bienvenue,
nouveau.
bonsoir. Oui, en fait, le thème de cette séance, c'était « Ils s'en retournèrent par un autre chemin ». Donc, effectivement, dans la recherche de la foi, qu'est-ce que ça peut changer dans notre existence, cette expérience du Christ, si je puis dire. Et donc, on avait gardé cette phrase qui est tirée de la fin, donc, de cet épisode dans l'Évangile selon Matthieu, en 2,12, avec les mages qui regagnent leur pays par un autre chemin, donc quelque chose qui est de l'ordre d'une transformation de l'être en profondeur, parce que finalement ils se retrouvent au point de départ, si l'on peut dire, mais transformés, c'est-à-dire dans un cheminement nouveau. Et c'est pour ça qu'on avait joint le récit des noces de Cana avec Marie, qui au début est finalement mère de Jésus et lui donne des ordres, et puis à la fin, on la remarque comme suivant Jésus, c'est-à-dire comme disciple du Christ. Et donc on voit à travers ces récits des textes qui nous invitent à suivre donc ces personnages pour nous inviter à une conversion, nous inviter à cette découverte du Christ progressive et faire place à un changement en nous-mêmes. Donc pas forcément tout quitter, mais revenir dans son pays, revenir dans sa vie, revenir dans sa journée de demain, mais transformé par cette expérience de foi. Alors, oui, bien sûr, on est appelé à suivre Jésus-Christ. Donc, dans un texte comme ça, on pourrait se mettre à la place de Jésus-Christ, ce qui est souvent intéressant quand on lit les évangiles. On peut se mettre peut-être à la place, par exemple, du méchant Hérode, puisque, bon, la méchanceté n'est pas forcément toujours dans le camp des autres, hein, justement, c'est aussi peut-être une humilité intéressante. On peut se mettre à la place des mages, comme toujours, Moi, c'est vrai que, bon, que Jésus soit né, ça fait aucun doute. Dire même les gens qui pensent que c'est un gros nul pensent qu'il est né quand même, à part quelques historiens depuis une centaine d'années, peut-être, non ? Quand est-ce qu'on a inventé l'inexistence de Jésus ? Peut-être il y a une centaine d'années qu'on commence à voir ce genre de thèse fleurir. Dans les premiers siècles, aucun opposant de Jésus n'a pensé qu'il n'avait pas existé. Il disait, les Juifs disaient dans le Talmud, ils disent, non, c'est un usurpateur, c'est un sorcier, il trouble tout le monde. Dans les premiers siècles, jamais personne n'a dit qu'il n'existait pas.
Et maintenant non plus, d'ailleurs, c'est devenu un peu ringard. Je pense que c'était il y a un siècle, effectivement.
C'était il y a un siècle, ouais. Ça a pas mal fleuri dans les années 50, 60, peut-être encore un peu. Mais bon, d'ailleurs, ces récits ne sont pas inintéressants. Ces gens qui disent qu'il n'a pas existé, c'est un peu contre ça que peut-être rentre en combat Joseph Ratzinger. Je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait encore d'actualité. Bon, alors c'est vrai que ces récits, bon, l'étoile qui bouge, il y a des gens qui disent, alors est-ce qu'il faut chercher telle conjonction, telle planète, telle comète, machin, je crois que ça n'a absolument aucun intérêt.
Supernova.
Supernova, je ne sais pas quoi, ça n'a aucun intérêt, si vous voulez, parce que je crois qu'une lecture, spirituelle, c'est-à-dire le lire comme une prédication, une méditation sur, justement, le Christ qui est, enfin, Jésus de Nazareth, qui nous est donné, qui est pour nous le Christ, et qu'est-ce que ça peut changer dans notre existence, qu'est-ce que ça peut changer dans notre cheminement, qu'est-ce que ça peut changer dans notre espérance, dans notre façon d'être. Moi, je crois que c'est des méditations là-dessus, si vous voulez. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire que, littéralement, il y a eu une étoile qui a bougé, ou des mages, mais peu importe, si vous voulez, nous sommes ces mages, et c'est là que c'est pas du bidon, si vous voulez. C'est que, donc, Monsieur Mathieu, avec quelques collègues autour, ils font part d'une expérience qui les a bouleversés, qui a changé leur vie, et ils l'expriment comme ça, si vous voulez. Et, bon, c'est vrai que longtemps, enfin, je ne sais pas si jamais personne a cru à cause des miracles. Visiblement, ça convainc personne dans l'entourage de Jésus, les miracles. Ceux qui sont contre Jésus disent c'est un sorcier. Ceux qui sont pour disent, écoutez, c'est plutôt sympa d'avoir fait ça, et puis ça manifeste là une puissance divine. Mais cela dit, ça n'a jamais tellement convaincu personne. Aujourd'hui, on est plutôt croyant malgré les miracles qu'à cause des miracles, parce que les miracles, c'est surtout dans les sectes qu'on peut en voir, ou dans les films. Mais je suis quand même assez attaché à ce genre de miracle. Pourquoi ? Parce que ça nous invite, si vous voulez, à quelque chose qui vient de Dieu, qui dépasse simplement la petite logique de la vie de tous les jours. Mais ça nous invite à nous ouvrir à une transcendance, à quelque chose qui est de plus, quoi, si vous voulez. Parce que dans ces textes, on pourrait dire, le lire simplement au niveau purement psychologique, si vous voulez. Se dire, en tirer des bonnes petites leçons de morale, des bonnes petites hygiènes de vie, et se dire, ça va nous aider. Alors oui, ça nous aide d'avoir une hygiène de vie, de se dire, je vais entrer en cheminement, observer les signes qui me permettent, dans la nuit, comme tu disais, d'avancer. Oui, c'est des bons petits conseils, si vous voulez, psychologiques, et je ne veux pas passer forcément à côté. Mais en même temps, ça nous dit plus que ça, je crois. Ces miracles, ces récits prodigieux, ça nous dit que c'est au-delà de ça, le salut en Jésus-Christ. C'est quand même quelque chose qui dépasse simplement la simple écorce des choses.
Et on pourrait peut-être rajouter, d'ailleurs, que... Le saut qui nous conduit à faire une lecture immédiatement spiritualisante est quand même un petit peu freiné par le sens même du texte. Je veux dire que quelqu'un comme Kepler, qui est un grand génie, a montré qu'il y avait eu effectivement en l'an moins 6, et on sait maintenant que Jésus est né en l'an moins 6, alors évidemment ça a pu troubler, qu'il y a eu une conjonction de Saturne qui représentait Israël, donc évidemment Juda, et puis Jupiter qui était Marduk, et qui était donc un symbole de puissance qui se trouve dans le signe du zodiaque, le signe du poisson. Et donc effectivement, ça peut prêter à sourire, ce genre de concordisme. On appelle ça le concordisme lorsqu'on veut à toute force montrer que Le langage symbolique est fondé, au fond, sur l'observation de phénomènes physiques. Mais en même temps, n'oublions pas que le sens du texte, c'est quand même de nous montrer que des hommes qui sont guidés par des croyances astrologiques, païennes, des croyances sûrement inadéquates, ambiguës, entachées d'équivoques, mais en même temps fondées sur des calculs extrêmement précis, parce que l'astrologie babylonienne, à l'époque de Jésus, elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Babylone n'est plus un grand centre d'astrologie comme il l'avait été. Mais on a trouvé des tablettes cunéiformes qui montrent qu'il y a encore des calculs, etc. C'est quand même impressionnant. Il y a toute une science antique qui s'est forgée là. Et donc, ces hommes-là, c'est quand même eux qui arrivent à Bethléem. Alors que les scribes de Jérusalem, qui eux ont toutes les clés scripturaires, qui ont les écritures, qui savent où va naître l'enfant, qui habitent à côté, si j'ose dire, ceux-là, précisément, ne se mettent pas en route. Il n'y a pas cette mise en route un peu abrahamique, hein, où on avance comme ça, guidé dans la nuit du monde, effectivement. Donc, c'est pour ça qu'une lecture, effectivement, trop vite symbolique, est peut-être un peu rapide, au sens où, moi, je pense qu'un des sens du texte, c'est de montrer que des personnes qui sont mises en mouvement, qui sont mues par une quête un peu ambiguë, un peu tâtonnante, un peu comme nos contemporains finalement, qui cherchent un peu tous azimuts, qui font de la consommation spirituelle, qui s'inspirent du New Age, qui font du syncrétisme, qui touchent un peu à l'ésotérisme, qui cherchent un sens à leur existence en faisant du bricolage religieux, eh bien au fond le texte nous invite à ne pas mépriser ça. C'est-à-dire qu'il y a dans la religiosité, si lourde soit-elle d'ambiguïté et de scories et de parasitage, il y a quelque chose qui peut conduire à la révélation du Dieu vivant et vrai.
Oui, mais ça, c'est déjà du sens symbolique, ça.
Oui, tout à fait. Tout à fait.
C'est pas du truc lecture concordiste ou historicisante.
Non, tout à fait, tout à fait. Mais ça veut dire qu'au fond, probablement cette étoile, effectivement, il n'y en a pas. Et puis, mais
ce qui importe, ouais.
Ce qui les a mis en route, ça n'est pas la lecture de l'Ancien Testament. Ce qui les a mis en route, c'est des croyances inadéquates, improbables, une espèce nébuleuse, voilà, de bribes de choses.
Oui, il faut peut-être qu'on lise le texte, mais cela dit, ils étaient mages, donc ils arrivent par leur astrologie. Cela dit, donc un scientifique peut y arriver par sa science, un psychanalyste par sa psychanalyse, un artiste par l'émotion artistique, un cordonnier par la méditation sur les clous qu'on plante dans les semelles. Je ne sais pas, moi, si vous voulez, je crois que ça vient nous dire ça aussi, c'est-à-dire que tel que nous sommes, dans notre vie, dans notre existence, dans ce monde, il y a une façon peut-être d'arriver au Christ. Alors, cela dit, bon, on va le voir quand on va le lire, mais cette science, si je puis dire, ou en tout cas cette magie dans un sens, parce que bon, la Bible est quand même vraiment d'habitude contre l'astrologie, si vous voulez, elle est tout à fait, enfin, c'est un autre courant, et ils nous disent assez souvent que c'est pas une idée géniale d'entrer dans les augures, l'astrologie, les choses comme ça, parce que ça nous fait quitter des yeux les véritables enjeux. C'est pas que ça fâche Dieu, bien entendu, mais donc, c'est justement, pour aller dans ton sens, c'est vraiment extraordinaire qu'ils aient mis en scène, là, des mages, pour dire même des mages, finalement, même des astrologues, peuvent arriver par l'astrologie au Christ. Enfin, pas tout à fait, bon, ils vont s'aider, on va le voir en chemin, de théologiens, d'une réflexion peut-être. Mais quand même, ça les met en route, ça les fait quand même un peu aller dans cette bonne direction. Donc, il manquerait plus, j'allais dire, que ce soit des femmes pour montrer, parce qu'à l'époque, si vous voulez, voilà, c'était aussi quand on voit des femmes qui découvrent le Christ, qui se convertissent, c'est pour dire, là encore, les petits et les méprisés de ce monde, au point de vue de la culture, au point de vue de la théologie, au point de vue de la religion, qui vont découvrir le Christ. Ou quand on mettait les bergers, par exemple, dans l'évangile selon Luc, qui vont découvrir le Christ. On nous dit là aussi, c'est les petits, les humbles, ceux qui ne sont pas très religieux, pas bien religieux, qui vont découvrir parmi les premiers. Là, Dans ce texte, eh bien, ils choisissent des étrangers. Alors, je ne sais pas, ils ne viennent pas de Babylone, ils viennent d'Orient, a priori. Hein. L'Orient, Babylone, c'est plus au nord que du côté de l'Orient, mais...
Anatolé, en grec, c'est...
Ben, c'est le Levant. Et donc, le Levant, c'est plutôt... je ne sais pas très bien ce qu'il y a du côté du Levant, c'est le Yémen, je ne sais pas ce que ça peut être.
Oui.
Mais qu'importe, de toute façon, je crois que c'est là encore, c'est symbolique, si vous voulez, le Levant. C'est là où le soleil se lève, resplendit. Eh bien, ils ne vont pas se laisser aveugler par cette lumière du visible. Ils vont se rendre compte que bien qu'ils habitent l'Orient, donc le pays de la lumière, symboliquement, ils sont dans une nuit et faire attention à une minuscule lueur pour que ça les guide dans la bonne direction. Enfin, peut-être qu'il faut qu'on lise ce texte pour qu'on puisse avancer. Alors qu'il y a une lectrice professionnelle qui pourrait...
C'est vrai que tout ce qu'on dit, c'est un peu intimidant au sens où le texte est vraiment saturé, quoi. Et du coup, la lecture naïve que toute une tradition iconographique aussi, parce que c'est un texte qui a beaucoup inspiré les artistes. Redécouvrir le texte comme ça à travers... tout cet entrelacement de citations, on va le dire, parce qu'évidemment c'est un texte extrêmement construit qui résonne sur toute une mémoire d'Israël. Ça nous empêche une lecture trop en surface, quoi. Alors, c'est à la chapelle Sainte-Agnès.
Alors, qu'est-ce qui nous lit ça? Ah, merci beaucoup. Oui, ça va.
Jésus est emmené à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent : Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent : À Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et s'enquit soigneusement auprès d'eux, depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant : Allez, et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers eux, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Jésus et dit, à Joseph, pardon, et dit : Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y, jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il est resté jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait accompli par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère. Et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous, qui étaient à Bethléem et dans tous les territoires, selon la date dont ils s'étaient soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Quand Hérode fut mort, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère, et alla dans le pays d'Israël. Les ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre. Et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes.
Merci Chantal. Vous avez remarqué que donc c'est la traduction écuménique de la Bible qui essaie de suivre un petit peu le mouvement de la langue grecque, d'où le fameux voici, puisqu'en en grec effectivement c'est idou, qui est un impératif qui veut dire voix. Donc voici, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem, ça apparaît 4 fois, ça donne une frappe assez... assez solennel au récit.
Et puis qui est assez hébraïque aussi avec le hinneni, donc il y a assez souvent un marqueur assez fort de ce voici, c'est un marqueur assez fort d'une, souvent d'une intervention divine ou de quelque chose d'assez fort, voilà, qui marque une nouveauté, une rupture, une pliure dans le temps.
Volonté aussi de la part des traducteurs d'appeler les Kohanim, les Kohen, sacrificateurs et non pas prêtres, pour éviter le brouillage peut-être avec les prêtres de la Nouvelle Alliance. En même temps, c'est une erreur puisque les prêtres au temple ne sont pas proprement sacrificateurs puisqu'ils ne peuvent pas toucher le sang, hein, ils ne peuvent pas manipuler le sang. Donc ils sont là pour attester que le rite s'accomplit, mais il y avait des vrais sacrificateurs, voilà. Donc, c'est une expression mais qui désigne effectivement les Cohen. Les scribes, on s'attendrait plutôt à avoir les anciens, puisque dans les synoptiques, on parle toujours des prêtres et des anciens. Et on vous dit les principaux sacrificateurs, donc c'est sûrement les grands prêtres. On était grands prêtres pendant un an, et Cohen à Gadol, hein, pendant un an. C'était le sommet d'une carrière sacerdotale, et puis ensuite, on était grands prêtres honoraires ou émérites, et donc... On peuplait les rangs du Sanhédrin, et donc il y avait évidemment beaucoup de grands prêtres. On en voit une trace dans la Passion, lorsque Caïphe est en poste, il y a Anne, son beau-père, Ananos, qui est encore un grand prêtre honoraire, mais qui n'est plus en fonction. Donc évidemment, ça représente les autorités. Évidemment, ici, il y a une ironie, puisque ce sont ces autorités qui ont tout en main pour reconnaître le Messie. Ce sont eux, ce sont elles qui désignent le Messie, mais qui ne font pas le chemin jusqu'à Bethléem. Et ce sont ces mêmes autorités qui, à la fin de l'évangile de Matthieu, rejetteront de manière définitive. Hein, et ils seront appelés par les mêmes termes, hein, les grands prêtres, les scribes, les anciens. Ce sont eux qui rejetteront... une deuxième fois le Messie. Donc il y a ici une sorte d'annonce, bien sûr, de la passion et de la royauté paradoxale du Christ, puisque c'est la même expression « roi des Juifs » qui sera utilisée par Pilate, qui est aussi un autre païen et un autre potentat. Les mages ne sont pas des potentats. La tradition en a fait des rois. On vous expliquera peut-être pourquoi. Vous devez savoir pourquoi. Ça vient d'un psaume. Mais effectivement, cette expression de « roi des Juifs » est typiquement païenne. Un hébreu n'aurait jamais utilisé cette expression. On disait roi d'Israël, et la royauté était suffisamment problématique pour un juif. On en a des échos dans le livre de Samuel ou le livre des rois. Avoir un roi pour un israélite, c'est problématique, puisque le seul roi, c'est Dieu. Donc, ils ont voulu se donner un roi. Dieu leur dit, d'ailleurs, vous avez voulu un roi, ben maintenant, vous êtes déçus, parce qu'évidemment, Saül ou David ou Salomon sont aussi pécheurs, sont aussi des hommes, mais voilà. Donc De toute façon, cette royauté pour un juif est une royauté de service, et la royauté davidique, c'est une royauté sur Israël. On est roi d'Israël, mais on n'est pas roi des juifs, si vous voulez. Donc, cette expression roi des juifs, elle est typiquement maladroite. Elle ne peut venir que d'une culture qui ignore toutes ces choses-là. Et donc, évidemment, on retrouvera ça sur le titulus, le panneau qui sera porté sur la croix de Jésus. Roi des Juifs, Rex Judeorum.
Alors, moi, ce qui attire mon attention, c'est que déjà, les premiers mots, Jésus est né, étant né. Donc, si on rentre dans ce récit, finalement, ça nous dit qu'on n'a pas besoin de faire naître le Christ. Donc ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire que ce n'est pas avec notre sagesse, notre science, qu'on va arriver à faire émerger en nous du christique, du divin, de l'enfant de Dieu. C'est plutôt, voilà, c'est déjà arrivé, ça nous a précédés, et c'est plutôt à découvrir finalement. C'est plutôt à accueillir, à reconnaître, et ça je trouve que c'est déjà quelque chose d'assez fort. L'évangile selon Luc... Il nous invite à nous laisser peut-être plus en imitation de Marie, à nous laisser féconder par la parole, par l'esprit, et que accueillir cette divinisation de notre être, la venue de notre être en nous-mêmes, si vous voulez, se laisser féconder par le Saint-Esprit, par la parole. Là, le rôle de l'humain est plus modeste, et peut-être que la grâce est plus dite finalement par cela. L'évangile selon Luc insiste beaucoup justement sur la conversion. Là, la conversion, elle existe, parce que si vous voulez, il y a ce Jésus qui est déjà né, c'est pas les mages qui doivent le faire naître ou même le concevoir, ils sont très éloignés de tout ça. Mais aussi loin sont-ils, en Orient, hein, ils ont vu son étoile et finalement cette naissance en eux, c'est une mise en mouvement, finalement. Et peut-être que le premier changement dans ces mages, puisque nous nous intéressons à cet impact de la foi en Christ, le salut de Dieu, finalement, peut provoquer en nous, le premier changement, c'est qu'ils étaient bien tranquilles chez eux en Orient, et que même là, finalement, même très loin de Jérusalem, très loin de tout, deux événements, eh bien, l'écho a pu les rejoindre là. Et ça, je trouve que c'est quand même formidablement optimiste sur l'universalité du salut. C'est de toute façon, j'allais dire, la limite, la venue de la foi, ça arrive qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, même si on est très éloigné à tout ça, mais notre rôle, c'est de découvrir peut-être au plus profond nous-mêmes, loin de notre histoire, de notre façon d'être, découvrir voilà cela, cette part de divinité qui est née, quoi. Alors entre Bethléem et bon, c'est logique si on cherche le roi des Juifs, c'est logique d'aller chercher à Jérusalem, vous allez me dire. Donc l'étoile et la bandeau, bon, c'était assez logique d'aller se dire bon, si il y a un roi des Juifs, je vais chercher à Jérusalem. Un peu mauvaise pioche parce que finalement il n'est pas né à Jérusalem, il est né à Bethléem. Et ça, c'est quand même rigolo, parce que si vous voulez, on dit Jésus, fils de David. Alors, c'est ce qui était annoncé. On dit que Jésus accomplit l'Écriture. Ben oui et non, si vous voulez. Il n'accomplit pas toute l'Écriture ou n'importe comment. Jésus est fils de David dans un certain sens, mais comment l'est-il? Plus comme étant fils du David de Bethléem que du David de Jérusalem. C'est-à-dire plus du David enfant, berger, un peu méprisé dans sa famille, comme le petit dernier. Bon, il a une assez bonne gueule, mais il n'est pas puissant, costaud. Il garde les moutons quelque part au loin, et puis c'est bien qu'il garde les moutons, parce qu'on ne voit pas trop à quoi il pourrait servir d'autre, parce qu'il est un peu jeune, un peu... Donc finalement, c'est le fils de celui-là, du David qui est bien-aimé, le bien-aimé de Dieu, qui aime bien aussi ses brebis, qui s'en occupe par la compassion, etc. C'est pas le roi triomphant, le roi des Juifs qui règne. Là, le côté règne, le côté puissance, le côté, c'est plutôt Hérode. Donc, vous voyez, il y a là un peu quelque chose qui dit aussi déjà quel type de Messie est Jésus, et puis quel type d'accomplissement on peut attendre, découvrir, plus dans la douceur, plus dans l'accompagnement, plus dans le fait d'être bien aimé, comme c'est David, littéralement, ça veut dire bien aimé. Donc c'est plus à cela. Et puis Bethléem, bien sûr, hein, ce mot Bethléem qui veut dire la maison du pain, la boulangerie, qui est déjà un clin d'œil, si vous voulez, à tout un tas qui fait écho à énormément de choses. Jésus, il est né dans la maison du pain, c'est-à-dire qu'en fait, il faut le manger comme du bon pain, si vous voulez, que ça devienne notre force, qu'on l'assimile. C'est un peu ça. Et puis qu'on ne devienne pas un autre, mais peut-être un nous-mêmes autrement, si vous voulez. Plus nous-mêmes, peut-être. Donc déjà, vous voyez, à travers ces quelques mots... Alors cela dit, au temps du roi Hérode, ça veut nous dire quand même que c'est dans l'histoire. Effectivement, là je suis d'accord avec le pape. Si vous voulez, c'est quand même pas hors de l'histoire. C'est arrivé du temps du roi Hérode. C'est arrivé alors que, voilà, il y avait les Romains qui occupaient Israël. Et c'était... ça, c'est de l'histoire. Si vous voulez, celle de l'histoire, de la naissance de Jésus, c'est vrai, c'est comme ça. Alors cette mise en route, voilà, cette mise en route... Moi, c'est ça que je suis admiratif par ces mages qui se mettent en route. Ça les mène un peu à côté de la plaque. Hein, ils se trompent, l'étoile se trompe de ville. Bon. Et effectivement, ils demandent aux prêtres et aux sacrificateurs et aux scribes. C'est le temple et la synagogue, peut-être aussi, non ? Les scribes, c'était à la synagogue. Vous savez que depuis la destruction du premier temple, la religion religieuse... Les sacrifices au temple, tout ça, et les pèlerinages avaient un peu perdu des points en Israël, et ils s'étaient recentrés sur la lecture de la Bible, en fait, la lecture de la Torah, de la loi de Moïse, et puis les prophètes. Et il y avait un peu concurrence, hein, si je puis dire, entre ces deux lieux de recherche de Dieu, de foi, dans l'Israël du temps de Jésus, entre le temple, de la bonne religion bien religieuse, sans réflexion peut-être, hein, un peu voilà, quelque chose qui est de l'ordre du rite. C'est pas du tout méprisé dans ma bouche, il en faut aussi, si vous voulez, mais et la synagogue qui était quand même le pôle intellectuel, le pôle réflexion, le pôle dialogue entre les gens, qui avait pris un énorme poids. Et donc là on voit quand même que ça aide visiblement, si vous voulez, ça aide quand même, car ils se renseignent bien. Et quand même, il les met sur la bonne piste. Donc, il y a, si vous voulez, et l'étoile se remet en route. Donc, peut-être que ça nous invite à ne pas négliger les sciences de ce monde. Et ça, puisque vous êtes oratorien et que nous aimons bien l'oratoire du Louvre, en fait, mais je dirais peut-être que Bérulle l'a pris aussi sur la réforme protestante, j'en sais rien, dans une contre-réforme intelligente. Nous aimons bien ce dialogue entre la Bible et la science, la Bible et la psychanalyse, la Bible et la littérature, la Bible, voilà. Donc, si vous voulez pas être enfermé dans la pure lecture biblique, dans le pur rite, mais avoir le journal à la main, la Bible de l'autre, avoir que ça soit finalement à la croisée, peut-être à la conjonction des sciences humaines, des sciences dures, des sciences physiques, de l'astrologie, de l'astronomie, peut-être pas l'astrologie quand même, la littérature, voilà, à l'articulation entre notre existence, l'intelligence humaine, la sensibilité humaine, et la foi, et la théologie, voilà, et la philosophie, et que ça soit tout ça, finalement, qui, en coordonnant ensemble, et le rite aussi, finalement, qui est évoqué par le prêtre, ici, que ça soit tout ça, mis pour le meilleur, nous mettre en route, voilà. Et donc là, il y a le premier mise en route, transformation des mages, c'est cette observation, là où ils en sont, dans leur existence, mise en route, un peu dans la bonne direction. Ensuite, la conjonction de différentes disciplines, différents domaines, dont la religion, dont l'étude de la Bible, qui va les amener un peu plus près, finalement. Et ça, c'est le deuxième, peut-être, changement dans leur existence, c'est d'y ajouter cette expérience qu'est la Bible, finalement. Ils lisent la Bible et ils trouvent des pistes pour mieux découvrir le Christ, finalement. Ils avaient quand même été mis en route, mais voilà, pour faire un pas de plus, eh bien ça peut aider, ça aide. Alors on va voir que ça aussi, ça a une limite, c'est-à-dire que voilà, l'étoile, à un bout d'un moment, elle s'arrête et puis on n'en parle plus. Donc ça aussi, il faut dépasser l'étoile, il faut bien sûr dépasser les scribes et Et les sacrificateurs, comme tu disais, ils savaient très bien où devait naître le Christ, mais ils n'y allaient pas. Et parce qu'ils ne peuvent pas y aller, si vous voulez. La religion ne nous mène pas jusqu'au Christ. Elle nous donne des pistes pour aller vers lui, mais elle ne nous accompagne pas jusqu'au Christ. Après ça, c'est le dernier pas, finalement, il est à faire par nous-mêmes, par la foi, à l'intérieur de nous-mêmes. Et il faut même dépasser la religion, dépasser le rite, dépasser la Bible pour atteindre une expérience personnelle. C'est ce qu'ils vont faire.
Et il y a presque une mise en garde, d'ailleurs, contre une forme de, peut-être de surinformation religieuse, puisque ce sont des nantis de la religion. Et c'est intéressant ce que tu disais, je n'avais pas fait tellement attention, mais on a là un peu le trépied, les trois lieux où se transmet la tradition d'Israël. On a le milieu du temple, qui est un milieu donc conservateur, qui est aux mains des prêtres, c'est des milieux plutôt sadducéens. Ce sont des milieux qui ont une conception culturelle. Nous, on a l'équivalent dans le christianisme moderne, c'est ce christianisme un peu maurassien, un peu attaché finalement à la culture, au patrimoine, à l'héritage. Donc bon, c'est ce monde du temple. À côté, on a le monde de la synagogue, effectivement, qui est un monde plus intello, plus c'est le monde des scribes, des légistes, des docteurs de la loi, qui ne sont pas seulement ce qu'on en a fait, enfin dans une lecture un peu superficielle. On a fait des gens attachés à un légalisme étroit, mais c'était aussi des herméneutes, des gens de l'interprétation, des exégètes. Donc c'est le monde des rabbins, c'est le monde rabbinique qui est passionnant, qui est en plein essor à ce moment-là. Monde qui est plutôt pharisien dans sa coloration spirituelle. Et puis il y a aussi la prophétie, le prophétisme d'Israël, que ces deux courants essayent aussi de transmettre. Et évidemment, comme ce sont deux courants qui sont un peu institutionnels, l'institution a toujours tendance à pétrifier ou à geler la sève prophétique. Mais quand même, ce texte est tissé de citations prophétiques. Alors évidemment, tout le début, l'histoire de l'étoile, c'est le livre des Nombres, hein, c'est le chapitre 28 du livre des Nombres, avec Balaam, qui était aussi un prophète païen, vous savez, avec son ânesse qui bloque, qui fait un blocage. Balaam est envoyé par son roi Moabite, je crois, pour maudire Israël, et puis il tombe en arrêt devant la terre d'Israël, Eretz Israël, et il dit « De Jacob monte une étoile, d'Israël se lève un sceptre », etc. Dans la tradition des Septante, c'est même, dans la traduction, c'est même « se lève un homme ». Voilà, donc il y a là, dans l'idée de l'étoile, un motif qui va obséder, hein, toute la tradition juive, jusqu'au fameux leader de la deuxième révolte juive, Bar Corba, le fils de l'étoile. Donc ce motif de l'étoile, il est évidemment plus d'essence prophétique qu'astronomique, hein, bien sûr. Mais il y a, au cœur de notre texte, cette prophétie de Michée, qui est toujours citée. « Et toi, Bethléem, terre de Juda, on a aussi Bethléem et Frata, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda. » Alors ça, c'est tout à fait étonnant. Parce que c'est un détournement absolument éhonté de la phrase du prophète Michée qui dit exactement le contraire, qui dit « Tu es le moindre, tu es le plus petit des clans de Juda. » Ce qui est intéressant, c'est que le cœur de la révélation chrétienne, c'est quand même de nous dire que la grandeur selon ce monde, que le prestige selon la chair, comme on dit, selon les yeux de ce monde, que cette grandeur, à un moment, se brise, qu'elle a une fin, qu'elle est rongée par la mort, et que ce qui est petit, ce qui est humilié, ce qui est dédaigné, méprisé, est appelé, au contraire, à être une source de vie. C'est ça le cœur de l'Évangile, c'est ça le message de l'Évangile. Au fond, regardez l'Évangile, le début de l'Évangile de Luc. On est dans le sein des saints, avec Zacharie, et hop, immédiatement après, on est à Nazareth, dans un village qui n'existe même pas sur les cartes romaines de l'époque. Donc il y a une sorte de raccourci incroyable. Mais ce qui permet de lire ce qui se passe à Nazareth avec l'Annonciation, c'est précisément ce qui est arrivé au temple avec Zacharie. C'est-à-dire que la clé de lecture, elle nous vient de l'institution. Mais l'essentiel ne se joue pas évidemment, avec l'annonce de Jean-Baptiste, l'essentiel se joue à Nazareth avec l'annonce de Jésus. Et ici, c'est un petit peu la même chose. On a l'impression que le rédacteur de l'évangile de Matthieu a du mal à accepter. Donc, il va quand même dire « Tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda. » C'est-à-dire, toi aussi, tu as ta part du prestige parce que c'est de toi que va naître Jésus. Mais au fond, c'est une trahison parce qu'il faudrait maintenir l'idée que Jésus naît précisément dans le plus petit clan, le clan ignoré. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a une tension dans le texte entre l'intention du texte, qui est de montrer que c'est dans l'humilité que naît le Messie, mais quand même, il faut arriver à dire que cette petitesse est une forme de grandeur. Et la manière de le dire, alors Victor Hugo aurait fait des antithèses, etc. La manière de le dire, c'est de caviarder le texte et de le détourner.
Voilà. Oui, mais c'est souvent le cas dans les citations hein, de l'Ancien Testament faites dans le Nouveau.
Oui, mais c'est rare qu'on dise exactement le contraire, quand même.
Ben là, il y a aussi le contraire un peu plus loin. Hein. Car de toi sortira un chef qui fera paître Israël, mon peuple.
C'est
et dans Michée, il y a marqué celui qui dominera sur Israël. Et donc là aussi, il y a exactement l'inverse. C'est-à-dire que c'est l'idée là aussi, hein, non pas d'un roi qui va gouverner comme un roi puissant, qui va chasser les Romains, etc., qui va être un roi un David triomphant, un David guerrier, mais celui qui fera paître Israël comme le petit David de Bethléem, finalement.
Sauf que cette citation, elle existe, mais elle n'est pas dans Michée. Elle est dans Samuel, justement.
C'est 2 Samuel 5, mais quand même.
Oui, et on parle de domination et non pas du bon pasteur.
Dans 2 Samuel 5, voilà, tu paîtras mon peuple Israël et tu seras le chef d'Israël. Mais en faisant, en transformant Michée avec 2 Samuel, là aussi, il trahit. Mais cela dit, c'est très fréquent, si vous voulez, dans... Il y a d'autres passages où dans les citations, par exemple au début de l'évangile selon Marc, quand la voix qui crie dans le désert « Préparez les chemins du Seigneur », c'est pas ça, c'est, si vous voulez, il y a une transformation.
« Préparez dans le désert »,
Il faudrait comparer avec l'Ancien Testament, mais je crois que là il y a une transformation aussi, comme le Seigneur, il y a marqué « Préparez le chemin pour que le Seigneur puisse venir » dans la prophétie, dans les prophètes. Alors que là, non, le Seigneur est déjà arrivé dans l'évangile selon Marc, et il faut préparer des chemins du Seigneur à l'intérieur de nous-mêmes pour qu'il puisse cheminer, circuler avec facilité. Donc souvent, c'est vrai que ces citations, c'est en même temps une interprétation, c'est en même temps une transformation. Et ça, je crois qu'il y a là aussi une vraie leçon d'exégèse, non pas dans un littéralisme étroit, mais habiter ces prophéties et voir en quoi est-ce que le Christ les transforme, finalement, si vous voulez.
Et j'ai envie de dire que le comble est atteint avec le dernier verset, on peut relire. « Il vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplit ce qui avait été annoncé par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. » C'est dit avec une autorité absolument incontestable, sauf que depuis 2000 ans, cette citation... elle a hantise de tous les exégètes puisqu'elle n'existe pas, effectivement. Et on n'a trouvé nulle part, ni dans le canon des Écritures, ni dans le Targum, ni dans la Mishnah, cette prophétie. Comme s'il y avait, alors ça irait effectivement dans ton sens, un plaisir presque à pasticher le langage des prophètes, sans que ce soit d'ailleurs sacrilège. Et on annonce effectivement, il sera appelé Nazaréen avec un jeu de mots, parce que on a ici Nazaréen, ce serait plutôt en grec Nazoréen. On s'est demandé ce que ça veut dire, parce que chez Matthieu, il n'y a pas de trace de Nazareth avant. Vous vous souvenez, chez Matthieu, il n'y a pas d'annonciation à Marie à Nazareth. Donc il n'est question que de Bethléem. Et on dit que Joseph, par peur d'Archélaüs, fils d'Hérode, un des rares qu'il n'avait pas tué, puisqu'il avait tué 3 de ses fils, Archélaüs, encore plus cruel que son père, suscite donc l'inquiétude de Joseph, et donc c'est pour ça que Joseph s'installe à Nazareth. Mais on a nulle trace chez Matthieu d'un établissement de la Sainte Famille à Nazareth auparavant. Donc il sera appelé Nazaréen, il y a un jeu de mots. On s'est demandé si c'était Nazir. Le Nazir, c'est dans la Bible celui qui est consacré, celui dont on rase la tête et qui doit se tenir à l'écart d'un certain nombre de consommations, par exemple consommation d'alcool, comme Samson dans le livre des Juges. Alors, il se trouve que Jésus n'est pas Nazir. Il n'a pas été revêtu du Naziréa. Il n'est pas consacré à Dieu. Mais ça pourrait être le signe, évidemment, d'une consécration finalement encore plus haute que le Naziréa institutionnel. Maintenant, un certain nombre de spécialistes de l'évangile de Matthieu disent qu'en fait, il faut lire Netzer. Netzer en hébreu, c'est le surjon, le rejeton. Et que ce serait une allusion au chapitre 11 d'Isaïe. Du rameau de la souche de Jessé naîtra un rejeton. Et voilà qu'un rejeton jaillira de la souche de Jessé. C'est l'un des titres messianiques, un rejeton de la tige de Jessé. Voilà. Donc, Nazareth, Netzer, rejeton, ou bien Nazir. Voilà, il y a une ambivalence. On a l'impression ici qu'il y a un peu d'humour de la part du narrateur qui invente une prophétie et qui la met au service de cette origine de Jésus qui venait de Nazareth, ce qui gênait un peu tout le monde, puisque Nazareth, c'était une bourgade de Galilée, un peu paumée, un peu plouc. On sent bien qu'il y a une résistance dans l'évangile de Jean, au premier chapitre. Nathanaël oui, qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth. Voilà. Donc,
moi, j'y verrais bien là un indice, justement, de quelque chose d'historique. Parce que bon... C'est vrai que là, quand on se met à tirer les cheveux pour essayer de voir couper les cheveux en quatre et tirer un peu par les cheveux des interprétations de choses comme ça, on y arrive toujours. Mais on sent effectivement la gêne autour de cette origine nazaréenne de Nazareth. Et moi, j'y verrais, bon, effectivement, à ce moment-là, quelque chose qui est historique. C'est-à-dire que, bon, Jésus est né à Nazareth et on l'appelait Jésus de Nazareth. Et ben, qu'est-ce que vous voulez y faire ici?
Oui, mais le mot
Bobuge,
que...
ou je sais pas quoi.
Mais le mot qu'utilise Matthieu n'est pas ça, justement. Il utilise nazoréen, qui est un terme...
Oui, donc c'est pareil, il essaye de tirer un petit peu une interprétation à partir de ça. On y arrive toujours, voilà, moi je crois qu'effectivement, si on veut raconter une belle histoire, on le fait Jésus de Bethléem, par exemple. Ça sonne quand même mieux, quoi. C'est quand même, au point de vue de la lecture, là on comprend de quoi on parle. Eh ben non, il était de Nazareth, point. Donc, ensuite, mais c'est comme tout le reste, si vous voulez. Sur les faits historiques, vraiment, de la vie de Jésus, ils essayent de faire, parfois, contre mauvaise fortune, bon cœur. Puisque c'est arrivé comme ça et que tout le monde le sait, eh bien, dans le récit, ils vont prendre et tirer une leçon, un enseignement, une prédication qui nous dise ce qu'ils ont découvert d'extraordinaire et qui a changé leur vie, peut-être comme les mages, là, ils vont le dire comme ça. Par exemple, si vous voulez, la trahison, le fait que Jésus, à la fin, soit trahi par tous ses disciples, même les apôtres, qu'il soit crucifié d'une manière infamante, ça les a pas fait rêver, si vous voulez. Et c'est vrai que s'ils avaient voulu inventer une belle histoire sympathique... À mon avis, ils n'auraient pas choisi ce type de fin-là. Surtout, si vous voulez, à l'époque où l'évangile a été rédigé, c'est-à-dire au moment où une église commence à se construire, essaye de s'établir, essaye de solidifier les bases. Construire une histoire qui se termine avec la trahison des principaux apôtres, considérés comme plus ou moins les colonnes, si vous voulez, c'est mal parti, quoi. Ça ne s'invente pas, ces affaires-là. Et une histoire inventée, on l'invente mieux que ça, quoi. Donc, alors bon, sur la base de cette trahison, sur la base de cette crucifixion, je dirais vraiment de cet échec, si vous voulez, de la croix, ils font contre mauvaise fortune bon cœur. Et de cette histoire, ils tirent une leçon vraiment extraordinaire que nous avons dans l'Évangile et qui nous disent, voilà, que... Nous sommes tous faillibles, même les plus grands apôtres, mais qu'il y a une façon de rebondir, de redécouvrir de repartir, de redécouvrir vraiment un salut en Christ, même si on l'avait trahi, même si on l'a crucifié, même si on l'a abandonné. Donc c'est pareil pour Nazareth, à mon avis. Il est de Nazareth, il pourrait être de Bécon-les-Bruyères ou de Sarcelles, c'est pas le problème, si vous voulez. On trouverait là aussi une occasion de dire que Jésus de Sarcelles, Momo de Sarcelles, je ne sais pas qui, à travers son nom, il y a quelque chose qui se dit aussi et qui est une leçon à recevoir, à tirer de cette origine.
Mais pour le dire et pour faire passer la pilule, l'écrivain se sent quand même obligé d'inventer
une prophétie.
Oui. Alors ça, c'est... il était écrit que toujours il sortirait de Sarcelles, mais voilà. Alors c'est sûr qu'il y a une dimension, comme on parle souvent de Midrash, parce que alors, c'est devenu un peu, si vous voulez, le shibboleth, hein, la formule magique, dès qu'on a un texte qui est un petit peu, où il y a un peu de merveilleux, etc., on parle de Midrash. Simplement quand même, puis après on en viendra quand même à la question de la foi, puisque c'est... C'est un texte sur la foi et on l'a choisi pour notre thème de l'année. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas ne pas penser à toutes les légendes sur Moïse à la même époque. Hérode ici est comme Pharaon, c'est-à-dire que le massacre des innocents, ça fait penser au massacre des premiers-nés que Pharaon exige au début de l'Exode. Alors au début de l'Exode, c'est parce qu'il s'émeut de la croissance numérique du peuple d'Israël, mais il se trouve qu'il y avait toute une, ce qu'on appelle la Haggadah, c'est-à-dire une tradition légendaire à l'époque de Jésus qui disait que c'était pas du tout pour des questions de croissance démographique, mais que c'était parce que des mages étaient venus voir Pharaon pour lui dire que un chef allait se lever parmi le peuple hébreu et que donc il fallait absolument le décimer dans l'œuf, etc. Et que effectivement, si on lit ce texte, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'à la même époque, il y a toute une Haggadah autour de la vie de Moïse qui dit quasiment la même chose. Alors c'est pas pour minimiser le texte, mais c'est pour montrer comment est tissé le texte et que finalement, on ne peut dire des vérités qu'à travers des recompositions, des reconfigurations de textes qui existent déjà. Et ça, c'est très émouvant. Alors, c'est aussi une manière de dire que Jésus est le nouveau Moïse. Et évidemment, le discours sur la montagne, Jésus qui relativise la loi d'Israël, tout en prétendant, bien sûr, ne pas en changer un iota, parce que c'est le cœur de l'évangile de Matthieu. Je suis venu pour accomplir et non pour abolir. Bon, je dirais que tout ça est annoncé ici de manière un peu subliminale. Mm-hmm. Pour le lecteur de l'époque, au fond, vous allez me dire que c'est de la manipulation rhétorique, mais pourquoi pas ? C'est-à-dire que voilà, Jésus est présenté comme une sorte de nouveau Moïse. Il est présenté aussi un peu comme le nouvel Israël. Israël, c'est Jacob. Et bien sûr... l'histoire de Joseph ici, puisqu'il est question du père de Jésus plus que de sa mère, Joseph, c'est un peu le Joseph aussi du livre de la Genèse, hein, le fils de Jacob. Au catéchisme, on s'émeut toujours de voir que les enfants confondent Joseph, le père de Jésus, et Joseph, l'homme au songe de l'Ancien Testament, mais... Ici, le père de Jésus, c'est un peu l'homme au songe. Hein. Il y a toujours un songe qui arrive, etc. Et que fait-il à la fin ? Il va en Égypte, exactement comme Joseph. Donc tout ça n'est pas innocent. C'est évidemment pour faire signe et pour montrer que finalement, celui qui concentre tout Israël, c'est-à-dire tout l'héritage des patriarches sur sa personne, c'est Jésus. C'est l'enfant de Bethléem qui va en Égypte et qui va revenir. Donc le vrai exode, l'aboutissement de l'exode, il est vécu en Jésus, et il va revenir, et il va s'installer dans la terre promise, etc. Voilà. Donc c'est uniquement pour montrer qu'il y a tout un tissage littéraire, évidemment, et que ce tissage littéraire, loin d'affecter la signification globale du texte, au contraire, est là pour magnifier, j'ai envie de dire, ce qui est différent dans le texte. Parce qu'il y a des choses qui sont quand même différentes. Certes, Jésus est le nouveau David, mais il ne sera pas roi comme David était roi. Certes, il est le nouveau Moïse, mais il va conduire un exode, lui qui sera aussi tenté au désert d'ailleurs. Hein. Il y a vraiment une réécriture de l'exode. Hein. Il va conduire un exode pascal au-delà même de ce qu'a connu Israël, et donc par-delà même la mort. Enfin, vous voyez qu'il y a une espèce de relecture de toute la tradition d'Israël, mais en même temps avec des nouveautés à la fois dans le petit, dans une plus grande humilité, dans une origine plus obscure, mais aussi à l'autre bout de la chaîne, dans le grandiose et dans l'inouï, puisque ce nouveau Moïse va conduire le nouvel Israël, fait de toutes les nations, puisque les mages symbolisent toutes les nations, la gentilité, les goyims, va les conduire dans un nouvel exode, par-delà même les frontières de l'échec et de la mort. Donc c'est ça qui est superbe dans ce texte, c'est que on va à la fois plus dans l'obscur et dans l'originaire, là où les yeux se détournent, parce qu'on n'a pas envie de voir des origines aussi modestes, et puis on va beaucoup plus loin aussi dans la mise en route et dans l'exode et dans le voyage et dans le pèlerinage. Donc bien sûr, la foi ici n'est plus seulement la foi juive, c'est quelque chose qui est peut-être d'une autre nature.
Oui, mais c'est-à-dire que non seulement c'est un nouveau prophète, nouveau Moïse, voilà, mais en même temps, il fait, même de ces mages, astrologues, il en fait des prophètes finalement, parce qu'il en fait des... Il en fait des Moïse, puisque en 2.12, ils vont être divinement avertis en songe et ils vont pouvoir regagner leur pays par un autre chemin et non plus guidés par l'étoile, mais directement guidés par Dieu. Donc c'est-à-dire que c'est en ça qu'il est le Christ, si vous voulez. Il y a longtemps, ils attendaient un Christ qui soit un nouveau Moïse, hein, enfin un Moïse à la puissance 1000, ou alors un David qui transforme le monde et qui établisse la justice. Et cette attente, c'était celle peut-être des apôtres qui ont abandonné Jésus d'ailleurs, car on le voit hein, dans le début des Actes des apôtres, par exemple, on voit les apôtres qui sont bras croisés et qui disent à Jésus, mais alors, quand ça vient, ce rétablissement de la justice, de la paix en ce monde ? Et souvent, hein, il y a beaucoup de gens qu'on entend dire mais s'il y avait un bon Dieu, comment c'est possible ? Eh bien, la réponse, si vous voulez, c'est que Dieu travaille en profondeur, travaille en douceur. Sa toute-puissance n'est pas une toute-puissance de magie, mais une toute-puissance par l'amour, par l'accompagnement, non pas comme un roi triomphant qui agit par la force et par la puissance, mais par un petit berger qui agit par la douceur, en faisant paître, c'est-à-dire par le soin quotidien, en conduisant vers de bons pâturages où la brebis va pouvoir prendre des forces et devenir, en fait, comme ces mages, prophètes, c'est-à-dire en ligne directe avec Dieu, n'ayant plus besoin d'être enseigné. Et ça, c'est vrai que c'était déjà annoncé par les grands prophètes, par certains grands prophètes, pas par d'autres. Mais qu'en définitive, d'ailleurs dans des textes un peu polémiques par rapport justement au temple, à la synagogue, quand des prophètes disent « il n'y aura plus besoin d'enseigner le peuple car garçons comme filles, hommes comme femmes, jeunes comme vieillards, tous sauront directement la parole au plus profond de leur cœur ». Et la nouvelle alliance, c'est ça, une alliance qui n'a plus besoin de sacrificateurs et de scribes, car chacun va pouvoir être en ligne directe avec Dieu et être enseigné, non pas pour devenir des nouveaux prêtres et des nouveaux sacrificateurs et des nouveaux scribes, mais regagner son pays, regagner être soi-même dans son travail, continuer à être cordonnier, peut-être médecin ou je ne sais quoi, mais autrement, finalement, par la foi, par cette action divine, non pas devenir Dieu soi-même, mais être prophète, roi. Mais c'est ce qu'on dit au les baptêmes, hein, voilà, par le baptême chrétien, on dit voilà, tu es prêtre, prophète et roi. C'est-à-dire que le Christ nous transforme, nous rend christiques. Il y a parfois dans peut-être la spiritualité orientale, justement, hein, des chrétiens orthodoxes, Christ s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Moi, je trouve que c'est un peu exagéré. Voilà, on n'est pas appelé à devenir Dieu, ni divinisé. On est plutôt appelé à être christique, c'est-à-dire à être prêtre, prophète et roi, dans une relation à Dieu, justement. Et une relation à Dieu sans confusion, avec ce dialogue entre Dieu et l'homme. Tu parlais de Jacob, on l'a d'ailleurs juste avant les noces de Cana, hein, avec cette vision des anges qui montent et qui descendent au-dessus du Fils de l'homme, c'est-à-dire au-dessus de chacun de nous. Oui, c'était être un nouveau David, être un nouveau Jacob avec cette communication, cette intimité avec Dieu, sans se prendre pour Dieu justement, qui fait que notre chemin est éclairé. Voilà. Alors, on avait parlé de foi, donc il y a la foi au début qui est une mise en route là où nous sommes, quand ils ont vu l'étoile et qu'ils se mettent en route. Il y a peut-être la foi quand ils passent par la religion, le rite et l'étude de la Bible, la réflexion, la philosophie peut-être, hein, dans ce dialogue à Jérusalem. Il y a peut-être... ensuite, il y a cette conjonction de leur métier ancien et puis d'une sagesse nouvelle qui leur fait atteindre le bon endroit. Voilà. Et là, l'étoile s'arrête, elle disparaît, et peut-être que le premier bénéfice, justement, de cette rencontre, d'arriver à Jésus-Christ, c'est la fin des artifices, peut-être, justement. Et déjà, même avant d'être vraiment éclairé, les moyens anciens commencent déjà à s'effacer, si vous voulez. Il n'y a plus besoin du rite, il n'y a plus besoin des étoiles, de nos superstitions anciennes, de je ne sais quoi. On en est à l'expérience de la foi, peut-être, à ce moment-là. Mais déjà, il y avait de la foi dans cette mise en route. Si vous voulez. La foi, ce n'est pas simplement quand on est bouleversé de la présence de Dieu, cœur à cœur avec Dieu. Il peut y avoir de ça, et heureusement, de temps en temps, mais la foi, ce n'est pas seulement ça. La foi, c'est déjà cette obscure mise en route, en se disant, je vais essayer, je me mets en route, du début, des mages qui se mettent en route. Mais la foi va les conduire dans ces transformations, ces étapes progressives, ces découvertes, cette réinterprétation de l'Écriture, peut-être, dont on a parlé, hein, au verset 6, en 2-6. Là. Mais quand même, elle arrive. À ce moment-là, l'étoile, finalement, s'arrête, et ils furent saisis d'une très grande joie. La joie que l'étoile s'arrête, finalement, et qu'ils... Et la joie d'entrer, car là aussi il y a une étape de plus, entrer, voir le petit enfant avec Marie sa mère, ils se prosternent, ils adorent, et ça c'est une expérience de foi aussi, c'est-à-dire reconnaître dans cette expérience quelque chose qui les dépasse peut-être, et devant qui ils doivent reconnaître...
Plier le genou.
Plier le genou, oui, c'est ça.
C'est la proskynèse, hein. La proskynèse, oui. C'est l'attitude vraiment, une attitude, c'est pas seulement une révérence, c'est pas l'étiquette à la cour de Vienne au 19e siècle, hein. C'est vraiment la remise de soi à plus grand que soi, c'est l'acte d'adoration totale, le front touche le sol, et ça ne se fait que devant des rois-dieux, c'est-à-dire devant Pharaon ou devant... Les rois qui avaient la prétention d'être... C'est d'ailleurs cette fameuse proskynèse qu'exigeront les empereurs romains après Auguste, et c'est ce qui posera problème d'ailleurs, outre le don de l'encens, etc. C'est un acte de vénération totale qui se fait là, évidemment, dans une obscure bourgade, et non pas à Jérusalem. Alors bien sûr, l'étoile, c'est peut-être aussi une métaphore de la foi, c'est-à-dire que C'est pas dans les centres religieux, outre le fait qu'en ville on voit moins la voûte étoilée, c'est sûr, déjà à l'époque je pense, mais c'est pas forcément dans les centres de pouvoir religieux que la foi est la plus joyeuse, puisqu'il y a un lien entre entre la foi, l'étoile et la joie. Hein. Quand ils aperçurent l'étoile, donc à nouveau, ils furent saisis d'une très grande joie. Et l'éclipse de l'étoile, elle se fait précisément dans cette ville qui avait toutes les promesses pour elle, une ville de la paix, Jérusalem, qui est plus qu'une ville hein, pour un juif de l'époque, c'est plus qu'une capitale. C'est pas le Vatican, d'une certaine manière, c'est des bureaux. Bon. Mais ici, et bien, malheureusement, l'éclipse de l'étoile, comme l'éclipse de la foi, se fait là. Et donc, évidemment, le texte, de ce point de vue-là, est quand même très audacieux. Quoi. Il nous laisse entendre que la foi ne brille pas de tous ses feux, forcément, quand on est dans la proximité d'une institution, avec tout ce que ça peut avoir de rassurant, où les pierres pensent à notre place, j'ai envie de dire, le temple de Jérusalem pense à notre place. Bon. Peut-être que Saint-Eustache souvent pense à ma place, d'ailleurs. Mais voilà, il y a cette étoile de la foi qui... Moi, c'est des textes, c'est d'une beauté à pleurer hein, quand on y réfléchit. Ça veut bien dire que c'est dans les moments de la vie où on pense que précisément l'éclipse de la foi se fait, c'est précisément là que peut-être elle est la plus vive, la plus saine. Hein. Voilà.
Alors quand même, ils offrent un présent, quoi, effectivement. Alors ça, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, finalement? C'est là aussi, je dirais, qu'il peut y avoir un élément important hein, dans leur cheminement de foi. Ils se prosternent, ils adorent et ils ouvrent leur trésor. Ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe.
C'est Isaïe 60, ça. C'est pour ça qu'on en a fait des rois, d'ailleurs, parce que Isaïe disait que les rois... Voilà.
Les rois de Tarsis, de je ne sais pas quoi, venaient offrir des présents.
Offriront leur présent.
Tarsis, d'ailleurs, ce n'est pas non plus dans l'Orient, si. Enfin,
c'est l'Espagne.
Bien, mais... donc, ce n'est pas franchement l'Orient, mais... mais à peu près, quoi, c'est ça. De toute façon, bon, c'est vrai que partant d'Espagne, si, effectivement, ils passent par l'Amérique, ils arrivent quand même à Jérusalem en venant de l'Orient. Mais
et Tarsis, c'est dans le psaume 72. Isaïe ne parle pas de Tarsis. Il dit « Les rois offriront leur présent de l'or et de l'encens. »
J'avais noté ça, ils viennent de Séba et de Saba.
De Séba et de Saba.
Mais c'est pareil, Saba non plus, parce que c'est peut-être effectivement l'Éthiopie, ce n'est pas franchement non plus l'Orient. Donc en fait, ce n'est pas très grave. De toute façon, ça ne les gêne pas tellement, ça, si vous voulez. Ça ne les gêne pas tellement. Mais si ce n'est que... Offrir cela, si vous voulez, ce n'est pas forcément un appel, je pense, à se sacrifier ou à donner, à devenir pauvre. C'est plutôt un présent symbolique, c'est-à-dire mettre au pied de la foi, au pied du Christ. C'est une mise en perspective de notre existence, je pense, où l'or, alors bien sûr, ça représente les moyens matériels. L'évangile n'est pas tellement, je crois, pour l'éloge d'une pauvreté matérielle. C'est pas la question, si vous voulez, je pense. Il y a tout un tas de gens riches qui suivent Jésus et auxquels on ne dit rien du tout, si ce n'est merci quand ils aident. Mais il n'y a pas du tout cette idée de pauvreté matérielle. Mais que cette pauvreté matérielle, elle soit mise au pied du Christ, c'est-à-dire qu'elle soit gouvernée. Par notre idéal, par notre foi, par le bien, mis au service de quelque chose de bien. Et c'est ce qu'on peut souhaiter de mieux, finalement, à nos possessions, c'est qu'on en fasse quelque chose de beau plutôt que ce soit nos possessions qui nous possèdent, si vous voulez. Donc là, il y a, je crois, le premier point, peut-être, de la foi. Résultat, c'est que nos moyens matériels, mais ce n'est pas simplement l'or, ça peut être notre temps, ça peut être notre force, ça peut être notre intelligence. On n'est pas appelé à sacrifier tout cela, notre intelligence par exemple, mais qu'elle soit domestiquée, orientée, gouvernée, éclairée, transformée par le Christ, c'est-à-dire par l'amour, au sens éthique, ça veut dire par l'amour, dans une vraie relation de confiance, d'alliance avec Dieu pour ce qui est de du domaine spirituel, que ça soit du domaine existentiel, ça pourrait être sur une paix intérieure, une vraie révélation de ce que nous sommes en réalité, finalement, de notre propre personnalité, je ne sais pas quoi. Alors l'encens, ça évoque la prière,
l'adoration,
ça évoque ce qui monte vers Dieu, comme la fumée qui monte ou comme le parfum qui emplit la maison. Donc ça, si vous voulez, ça évoque...
C'est Libanos en grec, donc c'est le Liban. Donc c'est, une fois encore, ce n'est pas tout à fait l'Orient, puisque par rapport à la Palestine, c'est plutôt le Nord. Mais voilà, Libanos, c'est l'ensemble, une belle métonymie.
Ouais, ça montrerait bien finalement que dans un sens, le mot Orient, à ce moment-là, est symbolique. Ce n'est pas forcément géographique, ce n'est pas la question.
L'Orient donc, désigne quelquefois le Messie lui-même, hein, parce que c'est celui qui se lève.
Qui se lève comme une lumière. Donc là, l'encens, c'est-à-dire mettre l'encens au pied du Christ, c'est-à-dire que bon, on compte sur lui pour nourrir notre prière, orienter notre prière, la purifier peut-être, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Que notre élévation, vous voyez, on a tous envie d'être grand, beau et fort finalement, et qu'on soit admiré, qu'on plie le genou devant nous, c'est-à-dire c'est pas... Mais on ne critique pas là-dessus, finalement. Mais on nous dit la vraie élévation, finalement, notre désir d'élévation, bah oui, il ne faut pas, je dirais, frustrer ou dire, voilà, votre désir est mauvais. Ce n'est pas tellement sympa, je trouve. Les gens ont un désir, nous, on a un désir d'être quelqu'un qui vaut la peine, qui vaut quelque chose. Je veux dire, ce n'est pas mauvais en soi. C'est bon, c'est une bonne énergie, si vous voulez. Sauf que cette bonne énergie, plutôt que d'écraser les autres... pour montrer qu'on existe, ben ça peut être au contraire, comme le Christ, dans le service de l'autre, dans l'amour de l'autre, dans le pardon, dans construire la paix, dans faire de belles et bonnes choses. Et vous voyez, donc il y a ce désir d'élévation, il peut être mis au pied du Christ, transformé par un autre chemin, finalement, vous voyez, évangélisé. Et ça, je crois que c'est à ça que nous invite cette... C'est un des bénéfices de la foi, peut-être, que tout d'un coup... ce que nous possédons, notre désir d'élévation, puisse être transformé en des bonnes choses vivifiantes. Voilà. Et puis la mire, c'est plus compliqué la mire peut-être. La mire, ça représente, semblerait-il, quelque chose qui serve à l'embaumement des morts.
C'est ce que Joseph d'Arimathie offre.
C'est ce que Joseph d'Arimathie offre.
Quantité,
voilà, c'est ça. Donc voilà, comme tu disais tout à l'heure, ça fait écho peut-être à l'autre bout de l'évangile où il y a cet embaumement. Et donc peut-être c'est notre désir de vie éternelle, notre désir de durée, notre désir de... C'est en écho à ce désir peut-être des Égyptiens, puisqu'on parle de l'Égypte, où ils voulaient pérenniser notre existence en ce monde, durer, voilà. C'est le désir d'éternelle jeunesse qui est le nôtre aussi, bien sûr, et qui n'est pas mauvais en soi, bien sûr. On veut rester jeune, en forme, le plus longtemps possible, et c'est très bien. Là, on nous dit la vraie durée, dans un sens, c'est quand même par le Christ, c'est-à-dire c'est par la qualité d'être, qualité de relation, qualité d'espérance, qualité d'élévation, qualité d'inspiration pour utiliser nos moyens matériels. C'est là-dedans, finalement, qu'il y a une éternité, dans la qualité de ce qu'on peut vivre.
Il y a peut-être un petit clin d'œil, puisque de fait, les femmes qui se rendent au tombeau vont pour faire l'embaumement qu'elles font à la juive, c'est-à-dire un embaumement extérieur. Il n'y avait pas d'embaumement comme chez les Égyptiens. On n'ouvrait pas le corps, donc on frottait. Et précisément, c'est ce qu'elles n'ont pas fait. Donc, elles vont avec les aromates, parce que dans la mentalité orientale, la mort intervient au moment de la putréfaction, en fait. C'est pas tellement la mort cérébrale ou cardiaque, c'est la décomposition du corps qui est la mort. Donc si on peut freiner ça, c'est ce que disait Marc, hein, à savoir, c'est une sorte d'ersatz, de succès d'année, d'éternité, l'embaumement, parce que malheureusement, le temps fait quand même son œuvre. Et précisément, Jésus n'a pas... alors, non seulement il n'a pas connu la corruption, mais il n'a pas connu non plus cette espèce d'incorruptibilité factice ou artificielle. C'est ce qui est suggéré au matin de Pâques, puisque le Shabbat n'avait pas permis aux femmes de procéder à cette onction. Donc là, ce serait peut-être une allusion, effectivement, à la résurrection, à l'incarnation aussi, parce que c'est une herbe amère, et puis c'est lié à la condition humaine, la myrrhe. L'or, ce serait le pouvoir, la puissance au sens humain, l'encens et la divinité, et puis la myrrhe, ce serait peut-être l'humain en Jésus, enfin voilà. Donc l'idée qu'il y a des rois, évidemment, je vous l'ai dit, ça vient d'Isaïe et du psaume 72, et puis l'idée qu'ils sont trois, nos chers Gaspard, Melchior et Balthazar, ça vient évidemment des présents. Dans l'église syrienne, d'ailleurs, ou dans l'église arménienne, ils sont 12. Hein, vous voyez que l'imaginaire peut se saisir de ce genre de choses.
Mais ce qui est quand même incroyable, c'est que donc ils regagnèrent leur pays. Donc j'allais dire, il a fallu dépasser les moyens divers qu'ils vont mettre au service, qu'ils l'étoile finalement pour des mages, c'est-à-dire leur science et leur technique. Ils vont dépasser le rite. Et l'étude de la Bible, la philosophie, tout ça, la culture, pour rejoindre le Christ. Mais même le Christ, il faudra passer au-delà. Pas au-delà, peut-être pas au-delà ce coup-là. Mais ils ne sont pas retenus, scotchés au Christ, finalement. Et ça, il faut qu'ils retournent dans leur monde, dans leur vie, dans leur famille, dans leur métier. Et ça, je trouve que c'est très beau. C'est-à-dire que là, il y a une leçon pour notre Église aussi. C'est-à-dire, voilà, on n'a pas à retenir les gens captifs, ni à considérer que la vie doit qu'on doit devenir des purs êtres spirituels. Pas du tout. Au contraire, dans le spirituel, il y a une expérience de foi. Vous voyez, pas simplement dans le bouleversement d'extase qu'il peut y avoir dans la rencontre avec Jésus-Christ, mais dans ces différentes étapes, différentes possibilités de faire un pas de plus. En définitive, il faut même quitter le Christ dans un sens. Voilà, il ne faut pas rester dans les Alléluia et dans cette extase pour. C'est un aller-retour. On va lire la Bible, on va y découvrir des choses. Si ça nous mène à une mystique, tant mieux. De toute façon, ça sera temporaire et il faut que ça le soit. Et il y a un retour dans la vie en ce monde avec les siens, avec un service. Voilà. Et c'est normal.
Mais par un autre chemin, quand même.
Par un autre chemin. Donc, il y a une transformation, mais ils retournent quand même dans leur pays, transformés. Voilà, c'est ça. Oui. Mais ils ne restent pas collés. Et bien souvent, Jésus guérit quelqu'un, etc. Et lui dit, bon, ben maintenant, il renvoie. Il dit, vas-y, tu retournes, guéris. Donc, pareil, avec un... Par exemple, un aveugle, il retourne avec la vue. Et donc là, il va pouvoir... voir par ses propres yeux, finalement. Comme ici, ils peuvent avoir leur propre foi, leur propre relation à Dieu, à la limite, se passer du Christ. Parce que finalement, ils ont Christ au cœur, ils ont Christ en eux. C'est plus... ils peuvent se passer, finalement, de ce que nous sommes bien obligés de faire. Car Jésus de Nazareth, on ne l'a pas ici, qui vient nous enseigner les Écritures. Et donc, c'est plus Jésus au cœur, Jésus dans notre... dans nos mains, et puis ils ne sont pas seuls, ils sont plusieurs, hein, aussi, il y a cette équipe.
Ça fait penser à l'expérience des disciples d'Emmaüs.
Voilà.
Il y a un détour qui est inévitable, il faut faire un détour, mais précisément au moment où le détour, alors chez les disciples d'Emmaüs, c'est par l'auberge, hein, ce bout de chemin qu'ils font ensemble, ce détour aussi,
là aussi
par
il y a l'écriture, hein,
bien
voilà,
sûr, ouais. Et c'est au moment... où précisément la tentation serait de posséder, que Jésus disparaît à leurs yeux. Et alors là, c'est un autre tableau de Rubens qui se trouve aussi ici, c'est les disciples d'Emmaüs, c'est le moment précisément de l'effacement. Donc il y a le détour qui est salvateur, qui est indispensable même, c'est pas une coquetterie, il faut accepter de sortir des rails. On n'est pas sur des rails, il faut aller voir un peu, prendre un chemin buissonnier. Et là, se révèle à nous la rencontre qui change tout. Et il faut accepter de repartir.
Retourner
et
dans
ne
le,
pas
dans
mettre
le
sa
monde.
Main
ouais, c'est
sur,
ça. Ah oui, de ne pas se mettre sa main. Oui, parce qu'ils auraient pu emballer Jésus, le mettre dans le coffre à la place de l'or, et repartir avec Jésus dans leur coffre. Et non.
Bien sûr.
Parce que le pauvre bébé, il serait mort étouffé, en fait, c'est ça. Ben non. Eh ben non, voilà. Et donc là, je crois que... Mais bon, peut-être qu'aussi, c'est... Dans ce récit, voilà, y a, c'est le schéma idéal, mais encore une fois, on n'est pas forcé d'avoir ce bouleversement de joie et d'agenouillement devant le Christ. Ce n'est pas vécu d'une manière peut-être aussi spectaculaire que c'est raconté dans cette histoire. Mm-hmm. On en connaît des grands mystiques qui connaissent des extases mystiques absolument formidables.
J'ai cru, disait Chateaubriand.
Voilà, ou bien Pascal, ou bien Saint Paul, si vous voulez, qui tombe de son cheval. Mais tant mieux, je veux dire, il y a des gens, on en connaît, des gens qui vivent cela, ou des petites expériences, si vous voulez, dans sa prière personnelle, dans sa lecture personnelle, dans une rencontre, des choses que tout d'un coup on comprend, si vous voulez, des choses qui font que notre vie peut se mettre un peu en perspective. Mais je dirais... Bon, déjà, dans une mise en route, déjà dans une mise en perspective de sa vie, comme de mettre l'or, l'encens et la myrrhe au pied de Jésus, déjà dans une compréhension de l'Écriture, même si c'est une compréhension, comme tu le disais, qui était quand même assez effrontée, assez osée, cette Écriture, nous l'avons décortiquée aujourd'hui pour chercher un peu de près ce que ça peut vouloir dire, mais même la lecture naïve, si vous voulez, de l'Écriture... peut, dans un certain sens, nous conduire au Christ avec une expérience, quelque chose qui nous transforme et qui nous fait rentrer différents dans l'existence le lendemain. Voilà. C'est peut-être cette humilité de la lecture de l'Écriture qui peut nous permettre de chercher et de trouver, de recevoir quelque chose.
Alors, je pense que les noces de Cana, ce sera donc pour
une autre année.
Et je proposais de terminer sur... Puisque peut-être certains parmi vous suivent le groupe de remise en forme spirituelle du Père Caffin. C'est sur les premiers âges de l'Église, sur les pères apologètes et sur les pères de l'Église. Et voici ce que dit Ignace d'Antioche dans sa lettre aux Éphésiens à propos de ce texte de Matthieu qu'il commente. Un astre brilla dans le ciel plus que tous les astres. Sa lumière était indicible, sa nouveauté étonnait, et tous les autres astres, avec le soleil et la lune, se formèrent en chœur autour de l'astre et lui projetaient sa lumière plus que tous les autres. Alors était détruite toute magie, tout lien de malice aboli, l'ignorance était dissipée, l'ancien royaume ruiné, les anciens empires abolis, quand Dieu apparut en forme d'homme, pour une nouveauté de vie éternelle. C'est son commentaire de l'adoration des mages de l'évangile de Matthieu.
Très bien, donc Ignace d'Antioche. Alors on se retrouve, si on ne se voit pas d'ici là, dans des fêtes de Noël, bien sûr, ou dans d'autres lieux, mercredi 16 janvier, donc 2013, ça sera aux 4 rue de l'Oratoire avec Paul et Jacques. Donc des lectures, si vous n'avez pas le programme, vous les trouverez sur les sites internet ou sur le petit feuille voilà. Qu'on a ici, qu'on trouverait un peu partout. Donc bon retour à vous, bonne fête de Noël et puis bonne
très
fête
bon temps de l'Avent, bonne
joyeuse.
Fête de Noël, voilà.
Et à bientôt.
À bientôt.